Et surtout, si de comprendre quelque chose, il y a souvent le syndrome de l'imposteur. Genre, ah, mais j'ai peur de mettre en avant les gens qui sont meilleurs, qui ont plus d'expérience, etc. C'est comprendre que dans la vie, on sera toujours le maître de quelqu'un et l'élève de quelqu'un d'autre.
Hello, c'est Lohan. Je suis coach business, investisseur et également entrepreneur en ligne depuis 2016. Si tu es ici, c'est que tu fais partie de ce que j'appelle le club. Celui de ceux qui voient les choses en grand. Celui de ceux qui voient les choses différemment. Mais surtout qui passent à l'action pour réussir. Alors, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans notre monde et surtout, bienvenue dans ce nouvel épisode.
Alex, enchanté. Je refais l'intro qu'on a déjà fait plusieurs fois. Avec tous ces bugs de podcast, très content de t'avoir ici sur l'épisode. On a parlé de plein de sujets qui n'ont pas été enregistrés juste avant. On a parlé de pandas hyperactifs, on a parlé de voyages, de plein de trucs comme ça. Je pense qu'on va en reparler durant cet épisode. Bienvenue à toi en tout cas.
Bien sûr. Et des problèmes de drogue, du coup, non,
on a dit qu'on en reparlerait après. Ouais, on en reparlerait
après. Oui, c'est vrai, exactement. Mais en tout cas, enchanté d'être là, ça me fait plaisir aussi.
Bon, super. Et encore merci pour participer aujourd'hui puis d'être présent sur mon podcast où on va parler de plein de sujets, j'espère, et j'espère qu'on va avoir des trucs intéressants à dire, du moins.
Ouais. En tout cas, tout ce que je vois jusque-là, c'est que tu es bien meilleur à faire de l'argent qu'à enregistrer des podcasts. Parce qu'il y a toute une ribambelle. Mec, derrière, le gars, il dit hey, chaque centime que tu as fait, il y a un écriteau derrière pour le dire, tu vois. 1 500 000. Il y a même, je crois qu'il y a un bon ticket restaurant au cas où, tu vois, derrière. Et par contre, le podcast, frérot, ça fait 25 minutes qu'on est dessus. Donc, j'ai envie de dire, c'est là où je me dis, Lohan, il sait où il est bon, il sait capitaliser sur ses zones de génie et c'est là où on voit un grand entrepreneur. Donc, tout ça pour te féliciter. Voilà.
Eh ben, merci à toi.
J'espère
merci
que tu apprécies le compliment.
Merci beaucoup. J'espère que je progressais. Tu me diras, je suis déjà à mon 50e épisode et je suis toujours pas bon à ça. Donc, écoute, il y a toujours une marge de progression et puis c'est ça qui est juste génial, non?
Oh, puis la tienne, elle est massive. Hein. Tu peux y aller là. Hein.
Merci. Bon. Oh. Soyons peut-être un peu plus sérieux, une seconde, pas plus. Est-ce que très rapidement, tu pourrais faire en une phrase une petite présentation, tu sais, les présentations un peu chiantes qu'on fait au début, mais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ou qui ne te suivraient pas, par exemple, sur les réseaux et qui te découvrent aujourd'hui,
ouais, bien sûr.
Qui t'es et qu'est-ce que tu fais?
Je vais essayer de faire une présentation, mais je suis désolé, je vais essayer de ne pas la faire chiante du coup. Moi, je suis un mec normal qui a vécu, qui a grandi dans une famille classe ouvrière et du coup qui a suivi un chemin un peu classique. De faire un peu d'études, de choper un job, puis tu te défonces dedans parce qu'on t'avait dit que si avoir un bon job et une bonne situation, bah, ça te permettrait d'être heureux avec la sécurité. À 25 ans, je me retrouve cadre, je gagne plus d'argent que je n'aurais imaginé, moi, fils d'ouvrier possible. Mais ça ne m'a pas rendu heureux. Alors, j'ai claqué ma dème, je suis parti réaliser mon plus grand rêve qui était de faire le tour du monde. Et j'ai voulu commencer à faire des vidéos parce que j'avais envie simplement de partager cette passion du voyage qui m'avait déjà animé un peu pendant mes 5 semaines de congés payés. Et en revenant, je me dis, en vrai, ce serait bien de changer de voie professionnelle. En vrai, j'aimerais bien savoir ce que ça donne la vie quand on s'écoute. Et j'ai tenté. Et au bout de 3 ans, j'y suis arrivé. J'ai réussi à avoir un job que quand j'en rêvais, il n'existait pas. C'était influenceur voyage. J'ai fait ça pendant 10 ans, jusqu'à il y a 3-4 ans où j'avais envie aussi d'évoluer. Parce que quand tu sors du métro boulot dodo, tu as envie en fait, d'une vie d'évolution, de possibilités. Et comme chaque situation idéale, si tu fais bien ton job d'évolution, elle ne l'est plus à un certain moment. Donc, ça fait 4 ans que je suis entrepreneur avec un business en ligne, spécialisé sur le personal branding, la stratégie de création de contenu. Et finalement, ben, j'aide toutes les personnes qui ont un talent ou un business à savoir en parler et à savoir le promouvoir sur les réseaux sociaux. Voilà. Et aujourd'hui, je continue à voyager, mais plus en mode digital nomade. Et là, en ce moment, je suis à Medellin, en Colombie, depuis quelques mois.
Ben, écoute, déjà,
elle marche bien la présentation ou pas?
Écoute, c'est pas de la merde. Alors, c'est moins de la merde que ce que j'espérais. Non, je rigole.
Merci.
Non,
mais ça veut dire qu'il y a bossé.
Non, franchement, excellent. Enfin, hyper inspirant. Et honnêtement, déjà, je pense qu'à l'écoute, il y a déjà beaucoup de personnes déjà, qui peuvent se reconnaître sur une grande partie de l'histoire. Moi, en tout cas, perso, déjà, je me reconnais de ouf sur ce truc où tu te dis profiter de 4 semaines. Alors, nous, c'était 4 semaines de vacances en Suisse quand je bossais là-bas. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de me contenter de ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de me taper ça toute ma vie? Moi, la réponse était non et je pense que toi aussi. Et quel est le... Je serais curieux de savoir sur cette partie, notamment là, sur le jour où tu as décidé de changer ta vie et de faire différemment. Est-ce que ça a été chaud pour toi? Ça a été quoi les étapes? Est-ce que ça a été dur et comment tu t'y es pris?
En fait, je pense que si je l'avais avec mon état d'esprit d'aujourd'hui, je pense que ce serait plus dur, bizarrement. Parce que quand j'ai commencé à vouloir justement changer d'orientation pro, passer d'un job en open space, à essayer d'être, je ne sais pas ce que ça pouvait être, mais gagner ma vie en créant du contenu, du voyage, etc. Ben, je le prenais tellement comme un jeu, me dire, tiens, vas-y, j'essaye. une aventure, et c'était la continuité un peu de cette aventure de kiff autour du monde, que en fait les étapes c'était juste, ou les problèmes c'était juste des situations, en fait c'était juste des moments, t'arrives dans un jeu vidéo, t'arrives sur le nouveau boss, t'arrives sur le nouveau niveau et il faut résoudre l'énigme. Et bizarrement, quand en fait t'es face à ton grand rêve et que c'est la première fois que tu mets le pied dedans, c'est comme si tu étais à Disneyland. Donc, ça a été dur finalement parce que ça a pris 3 ans, tu vois, et j'étais souvent perdu. J'avais zéro méthodologie, je ne savais pas apprendre. Aujourd'hui, ça peut paraître bête puisque toujours tout le monde a le réflexe de je ne sais pas quelque chose, je vais sur Google, je vais sur YouTube, je vais sur ChatGPT. Et finalement, en 2 jours, tu peux devenir quelqu'un d'assez bon sur un sujet. Je te parle de ça en 2011. Tu n'es pas habitué à te débrouiller par toi-même. Ce n'est pas du tout la culture. C'est la culture, c'est tu es dans une boîte, tu fais, à force de faire, tu vas devenir bon. Et deuxièmement, tu n'avais pas autant de contenu. Aujourd'hui, tu as des contenus qui valent des milliers d'euros qui sont à disposition gratuitement sur YouTube. Et ce qui fait que ça a été très dur. Parce que c'est comme si moi, je voulais aller là-bas, là, le truc que je vois là-bas. Mais entre moi et là-bas, il y a une jungle amazonienne que j'ai déjà traversée plusieurs fois dans ma vie. Et ça fait la même chose qu'en vrai, tu vois. C'est-à-dire, tu tailles ton chemin à la machette versus tu as un chemin balisé qui a déjà été emprunté, tu vois, avec des petits bancs où tu peux te faire des pauses, etc. Non. Et donc, c'était pas facile. Mais avec l'état d'esprit du jeu et pas l'esprit de la victoire ou de la conquête, mais l'esprit du jeu, ça m'a permis vraiment d'y arriver plus ou moins sereinement, je dirais.
Ok. En restant sur ce sujet-là, et après j'en aurai d'autres sur ton parcours, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même je pense 90% de la population, qui a un rêve de changement, d'avoir une vie différente, meilleure. Comment t'expliques justement qu'il y a beaucoup de personnes qui restent, malgré ça, toujours dans la même condition, toujours dans le même train-train, et qui ont du mal à prendre cette hache-là et te débroussailler devant eux, aller à l'aventure, sur des projets de cœur en plus?
Je pense que c'est assez simple. Si on te fait croire toute ta vie à un certain paradigme, c'est très difficile de et surtout qu'on te fait peur, on te dit que ça va être, on ancre la peur en toi si tu sors de ce paradigme. Donc le paradigme actuel, c'est celui de nos parents, la génération de nos parents, plus ou moins, même si toi et moi on n'a pas les mêmes, même pas les mêmes âges, peut-être ceux qui nous écoutent, mais grosso merdo, c'est génération après-guerre, et c'est ce qui importe, c'est la sécurité. Si tu as la sécurité, un petit boulot où tu es sûr de… Voilà, le lendemain, tu sais à peu près ce qui va t'arriver, tu sais combien tu vas gagner, tu as une rentrée d'argent stable, etc. Tu as tout qui roule, c'est ça qui va te permettre d'être heureux. Parce que finalement, la peur de la déconstruction de tout qui peut disparaître suite à la Seconde Guerre mondiale qui a traumatisé toute une génération, c'est ça que les gens ils vont chercher. Donc, on cherche là l'épanouissement dans la sécurité et surtout… la non-peur du lendemain. Sauf que même cette génération-là qui était parfaitement, je dirais, adaptée aux années 60, 70, 80, 90, où on crame tout, on nique sa mère, c'est le plein emploi, on y va, etc. Tout à coup, tu glisses dans un monde qui va petit à petit passer de « c'est la fiesta, il y aura toujours du job, on peut cramer ce qu'on a, on a un fort pouvoir d'achat, la société industrielle est en train d'exploser, la société de consommation » à la société de la peur. Finalement, il y a des guerres, mais c'est des espèces de guerres de terroristes. Finalement, maintenant, il y a de la délocalisation avec la mondialisation. Tu peux perdre ton job. Ah, ok, je peux perdre mon job. Donc, je suis content de ce que j'ai. Donc, en plus, il y a les attentats. Donc, potentiellement, je peux mourir à tout moment. On ne sait pas, etc. Il faut faire attention aux autres. Ah, en fait, mes potes, les voisins, c'est peut-être des méchants, tu vois. Et finalement, tout ça, ça fait que tu as une génération qui est d'autant plus ancrée dans la sécurité parce qu'elle veut encore plus la sécurité qu'avant parce que maintenant, elle a peur. Avant, elle kiffait. Maintenant, elle a peur. Sauf que nous, on est une génération qui a grandi avec toute la base de la sécurité. De tout ce que nos parents ils ont construit dans leur foyer, c'est tu te lèves à peu près en France. Je sais qu'il y en a que ce n'est pas le cas et je leur fais des gros bisous et ils ont toutes mes belles ondes. Mais tu as un toit et tu as à bouffer et tu peux aller à l'école, okay, et tu peux t'habiller. Rien que ça, déjà, tu as de l'eau courante chez toi, etc. En France, c'est une énorme majorité. Merci d'ailleurs. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu nais avec ça comme base. C'est-à-dire que la sécurité n'est plus quelque chose que tu veux atteindre. C'est ta base. Qu'est-ce qui est la suite de la sécurité ? C'est l'épanouissement, en fait. OK, j'ai mon train-train qui est gagné déjà, parce que mes parents l'ont gagné pour moi, la sécurité, le fait d'avoir à bouffer, le fait de taffer, etc. Ce qui fait que moi, c'est là où je vais m'appuyer pour commencer ma vie. Ben, c'est quoi la suite finalement de la sécurité? C'est l'épanouissement. L'épanouissement, comment tu le découvres? Ben, tu sais pas. Parce que ben, tu demandes à tes parents, eux, ils te disent non, 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 prends pas de risque, fais attention, c'est dangereux. Donc, tu as envie, mais tu sais pas. Au fur et à mesure qu'il y a des contenus sur Internet, tu arrives quand même à t'abreuver et à te faire une auto-inception pour te dire que c'est quand même possible parce qu'il y a des trous de balles comme Alex Vidéo ou comme Lohan qui se débrouille pour changer de job, pour partir à l'autre bout du monde, etc. Donc, petit à petit, tu y vas. Et en fait, tu vas aller chercher ça. Tu vas te dire, comment je fais pour m'épanouir? Ben, s'épanouir, c'est apprendre à se connaître et c'est comprendre qu'il n'y a plus un seul chemin, en fait. Il n'y a plus un seul chemin de j'ai un job, j'ai une sécurité, etc. C'est que l'épanouissement va être, je vais avoir une Lambo à Dubaï et je suis trop refait parce qu'il y a des meufs, tu as vu, et maintenant, elles me kiffent, avec d'autres où je vais manger vegan et je suis en autonomie dans mon jardin, tu vois.
Ouais.
Et en gros, c'est de se dire, je pense que le plus dur, et en fait, ce qui est fou, c'est que faut faire gaffe, en fait, à ne pas tomber aussi dans ce que tu vois, en fait, dans ce que tu t'es fait mettre dans le cerveau sans t'en rendre compte. Parce que peut-être que le mec qui est à Dubaï, en fait, c'est de l'insécurité qu'il a et qu'au fond, tout ce qu'il rêve, c'est d'être tranquille dans son jardin d'autonomie. Et peut-être que le mec qui est en autonomie, il a suivi tous ses potes qui étaient un petit peu en mode baba cool, mais ce qu'il rêve, lui, c'est d'avoir de l'oseille, tu vois. Et c'est pareil, en fait, tu peux vite, quand tu commences à aller te découvrir, quand tu commences à essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, cette espèce d'introspection, cette espèce, enfin, pour aller chercher l'épanouissement, il faut faire très attention à consommer du contenu qui t'aide, mais pas en fait ingurgiter pour qu'en fait tu deviennes ce contenu qui à la base n'est même pas toi. Parce que là, tu pars pareil sur un autre chemin et tu te perds encore plus potentiellement.
Si tu as du coup toi un conseil pour une personne qui en serait là dans sa vie, là tout de suite maintenant, qui écoute ça, qui sait qu'il veut quelque chose de différent, qui recherche son projet de cœur, qui sent au fond de lui qu'il y a un truc, ce serait quoi toi ton projet, ton conseil que tu dirais à cette personne-là justement qui a ce projet?
Ouais. C'est une excellente question et je pense que avant ça aurait été un conseil que j'aurais pu donner d'autant plus à des hommes parce qu'en vrai quand on me disait t'avais pas peur parce que moi à une époque où j'ai claqué ma dème, j'étais manager, je gagnais super bien ma life pour partir faire le tour du monde, je disais mais t'es un ouf mec, t'as pas fait d'études Alex, t'as un bête de job que normalement t'as à 30-35 et tu l'as à 25, qu'est-ce que tu fais quoi? Et en vrai quand t'es surtout il y a 10-15 ans, quand t'es un homme de moins de 30 ans en France et que tu as une bonne tête de français, si toi tu prends pas de risque, non mais gars, bien sûr, tu t'appelles Karima mère célibataire, Karima Ndiaye, et tu prends un risque, toi tu as des ovaires, j'ai envie de te dire, toi tu as du courage. Moi, si moi je prends pas de risque, qui va en prendre? Donc mais aujourd'hui, je trouve que le monde il est encore plus évolué et les femmes peuvent s'octroyer beaucoup plus de risques parce qu'elles ont beaucoup plus de possibilités de soit lancer leur business, soit montrer leur valeur. Heureusement que les mentalités sont en train d'évoluer. Il y a encore un énorme chemin à faire, mais c'est possible. Donc, je dirais que pour toutes les personnes, je dirais même plus les hommes, mais vraiment toutes les personnes qui ont avant 30 ans, mais en fait, écoute, donnez-vous, prenez un petit peu d'oseille de tout ce que vous avez et écoutez-vous en fait. Juste essayez de faire ce que vous avez envie de faire. Comme si personne te disait rien et que tu. Comme si. Oublie toutes les règles qu'on t'a inculquées. Ça veut rien dire, tu vois. Essaie de savoir ce que toi, en fait, ça te fait kiffer. Peut-être que tu es un musicien dans l'âme. Peut-être qu'au fond, toi, en fait, toi, tu as tendance à sortir beaucoup, mais tout ce que tu veux, c'est une routine pépère et être posé, en fait. Tu vois, alors que tu vas en boîte avec tes potes qui t'engrènent. Mais parce que c'est ton groupe de potes, tu continues de sortir en boîte, alors que toi, tu t'en fous. En fait, il n'y a pas de. On parle souvent de s'écouter pour aller à l'autre bout du monde, tu vois, et faire des trucs de ouf. Mais s'écouter, c'est justement accepter aussi qui on est. Et je pense que c'est ça le plus dur dans l'introspection. Et moi, j'ai encore redécouvert des facettes de ma personnalité où j'ai commencé de plus en plus à accepter qui j'étais, tu vois. Et ce n'est pas facile parce que j'aimerais être un certain type de personne et je comprends que ce que l'ADN de la vie m'a donné, ce n'est pas moi, en fait, tu vois. Et ça, c'est dur. Parce que, tu vois, moi, j'en prends conscience. C'est les gens que j'admire, c'est ben, bizarrement, naturellement, c'est les gens qui ne sont pas WAM, en fait. Tu vois, les qualités que moi, je n'ai pas. Donc, ça va être des gens qui sont disciplinés, qui sont réguliers, qui vont être des bâtisseurs, tu vois, qui vont choisir un angle de un art, un hobby, un métier, un business et qui vont crafter ça jusqu'à la fin de leur jour et créer des trucs incroyables. Et moi, c'est les gens que j'admire. Et pourtant, c'est ce que je suis le moins. Moi, je suis un testeur, je suis un découvreur, je suis un partageur. Je suis le mec qui va connecter, mais ce n'est pas moi qui vais faire directement les choses les plus incroyables. Tu vois, je suis à peu près bon partout, mais très bon nulle part. Et ça, c'est très dur parce que j'ai compris que malgré que ce soit eux que j'admire le plus, ces gens-là, ben c'est pas ça qui me rendra heureux, tu vois. C'est pas le fait d'avoir 25 biens immobiliers, d'être rentier, d'avoir un business qui fait des millions. Je pourrais le faire, je sens que j'en ai les capacités, mais ça demandera certainement 2 à 3 fois plus d'énergie que ces gens-là. Et au final, le process me rendra même pas heureux. Et je pense que c'est ça le plus dur aussi, c'est quand tu fais de l'introspection, c'est utiliser des outils qui vont te permettre de te connaître sans, je dirais, basculer sur ce que tu n'es pas. Parce que malheureusement, ceux qui se voient le plus, la majorité visible, la majorité ou même la minorité bruyante sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui craftent leur art. Tu vas regarder le foot, bah tu vas voir Cristiano Ronaldo qui fait des trucs de malade ou Messi là, qui vient d'aller dans son club à Miami, tu vois. Et tu vas voir aussi des mecs bah, en immobilier ou des mecs comme Yumi Denzel qui inondent les réseaux de leur vision du monde avec leur style à eux. Et je pense qu'il faut beaucoup de courage quand tu veux sortir du métro boulot dodo, bah, de ne pas retomber dans un autre métro boulot dodo. Ce qui est... Moi, je dis souvent, tu sors de la rat race. Donc, c'est celle, ce qu'on appelle la rat race en américain, c'est quand tu es dans la petite
Métro boulot
roue
dodo, ça
de
marche
la
aussi,
souris, en fait.
hein. Je recommence tous les
De
jours.
quoi?
Etc. Comme métro boulot dodo, hein, c'est la même chose, hein. Je recommence tous
Ouais,
les
c'est ça,
jours la
c'est
même chose.
métro boulot dodo. Et tu sors de la rat race pour aller dans la golden race. C'est-à-dire celle qui, en fait, tu veux être riche. Tu veux y arriver, tu veux être successful. Mais... Et ça me rend ouf parce que ça rend des entrepreneurs et des entrepreneuses malheureux alors qu'ils ont déjà gagné, en fait.
Ouais.
Tu sors de la rat race pour gagner, pour remplacer ton salaire, parce que tu es content de remplacer ton salaire à la base. Tu veux juste trouver un truc qui te fait kiffer pour pouvoir travailler à ta façon avec les gens que tu veux et en remplaçant ton salaire. Sauf qu'en remplaçant ton salaire, tu fais 3 000-4 000 balles. Mais en fait, vu que tu t'es abreuvé de contenu où les mecs ils font 10 000, 20 000 par mois, tu te dis, bah, en fait, c'est pas assez. Parce que si eux, ils font et qu'ils me disent que c'est ça que je dois faire, c'est si je le fais pas, c'est que je suis naze. Donc, tu te compares, donc tu as un sentiment d'infériorité, donc tu as un besoin de plus, parce qu'on te dit que tu peux plus. Et je pense que dans la vie, il y a une leçon énorme qui est très dure à comprendre, mais encore plus à appliquer, c'est que c'est pas parce que tu peux que tu dois le faire. Pas parce que tu as la possibilité de faire telle chose ou d'obtenir telle chose que tu dois le faire parce que ça peut te rendre malheureux, tu vois. Et typiquement, je prends c'est con, hein, je vais prendre un truc aussi basique que tu sais, une relation sexuelle, tu vois. On fait un pas de côté, je pense que ça concerne tout le monde au moins. C'est ce côté où, et surtout chez les hommes, c'est ce côté où tu sais, tu dis, putain, cette nana, je sens qu'il y a un truc, entre guillemets, alors je vais vulgariser le propos exprès, je peux me la faire, tu vois. Et pour flatter ton ego, pour te dire, tu vas aller jusqu'au bout, tu vas le faire alors qu'au final, ça va te décharger plus d'énergie que ce que ça va t'en apporter. Tu sais très bien que cette personne, ça ne matche pas, il y a un truc. Et au final, c'est parce que je peux le faire, je vais le consommer, tu vois. Je vais l'obtenir. Et ça, c'est pareil pour le business. Peut-être que tu es confort à 50K, 70K par an. Et putain, tu te dis, mais vas-y, putain, pourquoi je n'irai pas? Je vais essayer d'aller au million. Et en allant au milieu, tu te rends malheureux, tu te crames, etc. Et je pense que c'est très dur de refuser quelque chose qu'on te tend sur un plateau. Tu vois, on te dit, bosse un peu, tu vas y arriver. Pour savoir que ce truc que tu veux obtenir sur un plateau, ce n'est pas fait pour toi.
Et qu'est-ce que tu penses des profils qui vont être un peu plus compétiteurs dans l'âme? Tu vois, je prends des profils généralement des entrepreneurs ou des personnes qui sont peut-être des fois un peu plus sportives, généralement avec leur passé, etc., etc., qui aiment bien les challenges, qui aiment bien ce truc de toujours plus, que c'est peut-être ça aussi qui les anime, etc. C'est quoi toi ta vision par rapport à ça? Des gens, on va dire, qui se nourrissent de ces challenges, qui se nourrissent même de ce toujours plus-là.
Ouais. Je pense que c'est extraordinaire ça comme énergie pour aller justement construire des business, de se construire une vie, tu vois, un truc un peu solide économiquement, parce qu'on est d'accord que aujourd'hui dans cette vie, si l'argent, ça devient plus trop un problème, t'enlèves pas mal de problèmes de ta vie. T'en as d'autres, tu vois, mais t'enlèves. Donc j'ai envie de te dire, c'est fantastique. Nourris-toi. C'est comme la plupart des gens qui font des choses extraordinaires, c'est souvent des gens qui ont vécu un gros traumatisme. Et il se sert de ce traumatisme pour aller puiser cette revanche sur la vie, tu vois. Donc ça, je dirais, c'est bien à un certain niveau. Sauf qu'en fait, il faut, je pense, en avoir conscience parce qu'en fait, il y a un moment, quand la vie, dans ta vie, tu n'as plus de problème d'argent, il y a un moment, tu lèves la tête, tu vois. Tu dis, c'est chelou parce que je suis toujours aussi en colère, je suis toujours aussi dans la peur du manque et je me sens toujours aussi nul, tu vois. Alors que j'ai tout éclaté. Ah, bah en fait, il serait peut-être temps de voir ce qu'il y a à l'intérieur, justement, encore une fois, et de te dire, ben, 90% hein, des entrepreneurs ou des high achievers, comme on dit, ils ont le même problème. I'm not enough. Je ne suis pas assez. Donc, ils vont passer toute leur vie à prouver à eux, mais surtout à quelqu'un en particulier, leur père, leur mère, un truc, ou leur grand frère, ce que tu veux, qui sont assez. Sauf que quand tu arrives à 50, 60 ans, que tu as tout arraché et que tu te sens toujours pareil, et que finalement tu as la même misère intérieure, peut-être que quand cette énergie qui te file le feu intérieur t'a permis de construire une certaine sécurité financière, etc., ben peut-être que c'est le moment d'aller chercher, de conquérir autre chose, peut-être conquérir la sérénité, tu vois. Ça, je pense que je le verrais comme ça. Et encore une fois, le but de quand on est compétiteur, le but c'est quoi? C'est de gagner. Parce que gagner, ça nous rend heureux. On est d'accord.
Exact.
Sauf que si à force de gagner, en fait, tu n'es toujours pas heureux et que finalement, tu bases ton bonheur sur la victoire sur un championnat, c'est 1% du temps. Tout le reste, tu galères, tu trimes pour essayer de gagner, en fait. C'est-à-dire que tu as un schéma de vie où 99% du temps, tu as fait un contrat avec toi-même pour être malheureux jusqu'à temps que peut-être tu sois heureux avec la victoire. Et encore une fois, je pense que c'est un modèle, si tu acceptes d'être malheureux en contrepartie d'une sécurité financière, c'est formidable, tu vois, parce que tu as conscience de ça. Et le jour où tu as réussi à créer cette sécurité financière, tu peux décapsuler le truc et te dire, je vais aller bosser autre chose, tu vois. Mais pour moi, je pense que c'est ça. C'est prendre conscience du jeu infini dans lequel tu t'es lancé, te servir d'un trauma comme énergie inépuisable et d'avoir conscience que ce sera de toute façon un contrat avec toi-même de malheur, on va dire, de non-bonheur, de non-quiétude, jusqu'au moment où tu as envie de le soigner.
J'aime bien le mot que tu as utilisé de jeu infini. Franchement, c'est vraiment un truc que je partage aussi. Tu vois, pour me le rappeler, je me suis même tatoué là sur le bras. Bon, je ne pense pas que tu puisses voir à l'écran et je ne pense pas que ceux qui nous écoutent vont l'entendre, mais c'est une analogie que j'aime bien toujours me rappeler, celle de l'analogie du casino. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette analogie-là. C'est le truc de dire que la vie, c'est comme le casino sur une 90%, c'est-à-dire que tu y vas, tu arrives, tu as tes jetons de départ, tu as tes cartes de départ et tout le long, selon tes capacités, selon tes compétences, bah, tu arrives à te sortir plus ou moins de la table de poker ou de la roulette, etc., selon tes skills, avec aussi un peu de chance parfois ou de malchance dans d'autres. Mais toujours pas oublier que dans la vie, par rapport au casino, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment et que quoi qu'il en soit, tu repars sans tes jetons. Et moi, c'est un truc qui me guide beaucoup, notamment dans l'aspect business, où moi, je suis un gars qui veut, tu sais, le toujours plus, le step d'après, le machin, mais de toujours essayer de me rappeler, OK, je suis comme ça, c'est ma personnalité. Et puis, honnêtement, je suis à l'aise, tu vois, avec. Mais bien de garder dans un coin de la tête que ce n'est pas un aboutissement, que quoi qu'il en soit, à la fin, tu repartiras les poches vides. Et ça, ça aide beaucoup. En tout cas, ça m'aide moi beaucoup. Donc, ce truc de jeu infini, pour moi, ça me parle de ouf.
C'est pas de moi, c'est de Naval Ravikant qui est un gros investisseur de la Silicon Valley. Et, je dirais pas un philosophe, mais un mec qui aborde l'argent de façon ultra saine. Tu dois certainement connaître d'ailleurs Naval Ravikant, très connu. Et en fait, ce qui fait comprendre, c'est que tous les jeux d'adultes sont des jeux infinis, en fait. Et le jeu du fame, donc je sais pas, d'être connu, le jeu du boulot, d'être reconnu dans ton métier, le jeu de l'argent, du coup, le jeu de la séduction, le jeu d'avoir des amis. Et en fait, il dit, c'est le but des jeux d'adultes, c'est d'y jouer jusqu'à temps que c'est toi qui décides d'avoir gagné, en fait. Et il dit qu'il y a une courbe, en fait, ascendante et descendante sur ce que tu peux en retirer. Parce qu'il parlait de ses amis qui étaient multimillionnaires et qui, eux, ont continué à jouer le jeu de l'argent dans leur tête. Et qui, en fait, au début, ça les rendait heureux. Et en fait, le fait d'avoir continué de jouer ce jeu alors qu'ils l'avaient gagné, ça ne fait que, bah, finalement, ils redescendent dans la courbe du bonheur et de ce que ça leur apporte. Ça leur apporte plus d'anxiété, de problèmes, d'insatisfaction, etc. Plutôt que de se dire, oh, c'est bon, ça, je suis à l'abri. C'est quoi le next? Le jeu de la spiritualité, je sais pas, le jeu de la forme physique, le jeu de l'amour, tu vois, peu importe. Et je pense que c'est le principe, en fait, pour moi, des jeux d'adultes. C'est vraiment... Je trouve ça beau parce que un match de foot, peu importe, c'est l'arbitre qui décide. Ça siffle au début et à la fin. Et c'est tout. Et tu dois te démarrer dans le temps imparti. Ce que je trouve beau dans les jeux d'adultes, c'est toi qui décides, en fait, quand tu le commences et quand tu le termines. En tout cas, c'est le but d'arriver à en être maître. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui se laissent happer par ce jeu, en fait.
Hyper intéressant ce partage. Déjà, merci beaucoup pour ce partage. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. Je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure. On parlait des opportunités un petit peu. Tu as dit qu'il y a beaucoup d'opportunités pour tout le monde de changer sa vie, surtout dans le nouveau monde, etc., qui est plus celui de nos parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment avec Internet et les réseaux sociaux, tout est possible. c'est un truc de ouf et ça a ouvert des portes à beaucoup de personnes pour lancer beaucoup de choses. Personnellement, c'est grâce à ça que moi, je gagne ma vie. Et c'est a priori la suite de ton histoire. Est-ce que tu pourrais nous partager justement, toi, comment ça s'est passé dès que tu as décidé d'utiliser du coup les voyages notamment et puis surtout les réseaux sociaux aussi pour te faire connaître grâce à l'influence. Comment ça s'est passé pour toi et c'est quoi la suite de cette histoire?
En fait, ça s'est passé de la plus belle des façons. C'est-à-dire que j'ai galéré en étant un peu rêveur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'influence aujourd'hui pour les bénéfices. C'est-à-dire bien gagner sa vie, être connu, avoir des accès ou des privilèges à peu importe ce que c'est. Moi, j'ai vraiment commencé l'influence, donc je ne savais même pas que ce n'était pas un mot à l'époque, ouais. Parce que j'avais cette passion de partager ce que j'aime, qui était le voyage. C'est tout. Je voulais que les gens ils voyagent plus parce que j'ai vu ce que ça m'avait apporté, comment ça m'a ouvert l'esprit, comment ça m'avait challengé, comment ça m'avait permis de voir le monde, beaucoup plus comme il l'est plutôt que comme on veut me le faire croire. Et je dis, il faut absolument que je diffuse ce message, en fait. Et c'est vraiment comme ça, en fait, que je me suis lancé dans cette aventure. C'est vraiment par passion, en fait. Et parce que je l'ai fait par passion et dans un jeu, et essayer de le faire en me disant, putain, t'imagines si je peux gagner ma vie comme ça? Parce que personne, j'étais le premier en France à gagner ma vie grâce à ça. Et donc, quand t'es le premier, en fait, tu sais pas, t'as un inconnu. Tu sais pas si ça va se passer, ça aurait pu ne jamais arriver. Bon, la vie a fait que l'influence marketing est devenue quelque chose, tu vois, dans le monde. Mais ça aurait pu ne pas l'être. Et ce qui valait 100 balles un jour, en valait 10 000 quelques années plus tard. Donc, ça a été un process assez sain et surtout pour les bonnes raisons. Et je pense qu'inconsciemment, l'entrepreneuriat, tu vois, quand je me suis lancé il y a 4 ans d'entrepreneuriat, je l'ai fait pour les mauvaises raisons, pour les bonnes et pour les mauvaises raisons. C'était un moment de ma vie, les bonnes raisons pour moi, c'était un moment de ma vie où j'avais besoin de construire. Tu vois, après 10 ans à... J'avais un peu tout déconstruit dans ma vie. J'avais fait juste une vie où je me faisais kiffer, je découvrais le monde, je me découvrais moi, je gagnais bien ma vie, je faisais des choses incroyables tous les jours. Et j'ai eu les temps de construire une famille, les temps de construire un business, quelque chose qui soit un peu plus palpable et qui, tu sais, est un compound effect, tu veux, s'accumule et grandisse. La vie a fait que je me suis séparé. Donc, toute cette volonté de créer une famille, je l'ai encore plus reportée sur l'équipe, tu vois, ce petit bébé. Donc, quand tu gères une équipe comme une famille, c'est pas forcément sain. Quand en plus, tu fais l'erreur comme moi entre les deux, l'influence et l'entrepreneuriat, je n'ai pas pris 6 mois off pour me reposer parce que justement, je devais me reposer un peu plus sur ma partenaire à ce moment-là pour chill. Sauf qu'on se sépare, du coup, je me retrouve sans la personne avec qui j'aurais pu avoir du soutien. Donc, je repars avec 5% de batterie dans ma life. Et du coup, je le fais avec des mauvaises raisons, tu vois. Je le fais avec un peu l'esprit de revanche, de faire aussi bien qu'elle, de vouloir faire mieux, de voir ce qui se fait à côté, donc de vouloir tout à coup, mon paradigme et mes jauges de succès, c'est plus est-ce que mon audience kiffe, est-ce que moi je kiffe et que tout le monde est content et je prends mon billet, c'est bah, en fait les paramètres de succès d'une entreprise, c'est le CA. Est-ce qu'on fait du CA? Est-ce qu'on fait plus de CA? Est-ce qu'il y a une boîte qui fait ou des gens qui font à peu près ce que je fais, combien ils font de CA? Et du coup, je me suis concentré sur un jeu duquel j'étais sorti, qui était le jeu de l'argent. Quand j'étais directeur de clientèle en régie pub dans un open space, j'ai capté que je gagnais entre 4 et 6 000 balles par mois, moi, fils d'ouvrier. Je ne savais même pas que c'était possible. Putain, on peut gagner cette thune-là. Je ne savais pas quoi en foutre de cette thune en vrai. Je tankais, j'économisais 4 000 balles par mois, large, tu vois. Je ne savais pas quoi en foutre, tu vois. Je n'étais pas dépensé. Parce que c'est vulgaire, en fait. C'est mal de dépenser de l'argent, tu vois, quand tu viens de là où je viens. Parce que c'est durement gagné. Et je suis sorti de là, parce que je dis en vrai, nique sa mère, moi, c'est pas l'argent, ça ne me fait pas bander, tu vois. Et il en faut. Je vois qu'on peut faire des choses cool avec, mais ce n'est pas ce qui me drive. Et puis, je fais un truc qui me fait kiffer. Putain, je gagne encore plus de thunes qu'avant, sans m'en être vraiment préoccupé, parce que j'étais juste dans le jeu. Et là, je retombe là-dedans. Et c'est un pote qui m'en avait fait, mon pote Ulysse Lubien, qui m'a dit un jour, Alex, t'es le seul mec que je connais qui est sorti du jeu de l'argent pour aller masteriser le jeu de la vie et qui retombe dans le jeu de l'argent. Et je ne m'en étais pas forcément rendu compte, tu vois. Parce qu'à la base, ce n'était pas du tout une volonté d'être… je ne le faisais pas du tout pour l'argent. Parce que je le faisais encore une fois pour construire quelque chose, pour voir… Parce que d'habitude, quand tu crées un contenu, bah, tu pars de zéro et tu recrées une vidéo, tu recrées un truc quand tu es créateur de contenu, influenceur. Quand tu as un business, c'est plus… On crée un produit, puis après, on crée un funnel, puis après, on crée un écosystème, puis après, on va créer des bonus qui vont donner de la valeur. Et à chaque fois que tu crées quelque chose en plus… potentiellement, tu consolidifies ton business, tu le fais grandir, tu lui donnes du coffre, tu lui donnes de la valeur, etc. Et bah, bizarrement, en partant là-dessus, étant fatigué, ayant vécu ce que j'ai vécu personnellement, je me vois dévié sur ce jeu, en fait, qui n'est plus le mien, qui n'est pas le mien, qui n'a jamais été le mien, en fait. Et je pense que ça a été une énorme erreur qui s'est cumulée avec plus la fatigue de 10 ans de voyage et d'influence, etc. Et ce qui fait que mon expérience d'entrepreneur, où d'un côté, j'ai des super retours de mes formations, et ça, c'est extraordinaire, parce que tu l'as d'autant plus que quand tu fais de l'influence, parce que tu as des contacts directs avec les membres de tes formations. Et d'un autre, de l'aspect personnel, comment finalement l'impact que ça a eu sur ma vie personnelle, j'ai trouvé ça finalement assez toxique, tu vois. Parce que j'ai pas aimé forcément la personne que ça m'a que ça m'a que ça m'a rendu comme de la façon dont j'étais et surtout l'impact sur mon bien-être, tu vois. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de léger, quelqu'un qui s'en battait les couilles en vrai, tu vois. Et je le faisais les choses, alors je le faisais les choses bien carrées. Et finalement, le fait d'avoir une équipe, le fait d'être un peu dans cet esprit de revanche, dans le fait de vouloir bien faire, d'être posé sur des, enfin, tu vois, orienté chiffres versus kiff, je, moi, avec ma personnalité et comment je suis câblé, ça n'a pas rendu si heureux que ça, tu vois.
Et t'en parles au passé, du coup, comment est-ce que tu as pivoté et bifurqué après t'être rendu compte justement que tu jouais plus le jeu que tu kiffais? Ça a été quoi le déclencheur et comment tu as pivoté du coup?
Alors, c'est une bonne question. Je pense que fin d'année dernière, mon corps, il m'a dit, frérot, ça fait pendant 10 ans, plus de 10 ans, tu as fait le con à travers le monde. Pas une entorse, pas un ongle incarné, rien. Et alors, pourtant, je sais que j'en ai fait des conneries, mon ami. Hein. Je peux te dire, j'étais dans les endroits, gars, tu vois, rien arrivé. Pas malade, rien. Mec, j'étais robuste comme un clou de cercueil. Je te jure, j'étais increvable. Et le truc, c'est que mon corps, il m'a dit, attends, à aucun moment on va célébrer le truc, à aucun moment tu vas me remercier. Ah bah fuck, si tu le fais pas, moi je vais le faire en fait. Donc burn-out fin d'année dernière, je pars en Afrique du Sud, à Bali, je pars en Afrique du Sud où je dors 12 heures par jour, je mange, je refais une sieste de 2 heures, le cerveau, il marche plus quoi, tu vois. Parce qu'en fait, il te dit, bah mec, tu prends pas soin de moi en fait. C'est un peu comme l'histoire de la poule aux œufs d'or. Tu vois, c'est genre, bah en fait, la poule aux œufs d'or, elle donne un œuf tous les jours. Et en fait, t'en veux encore plus, t'en veux encore plus. Donc, il découpe la poule et en fait, il n'y a rien dedans. Et il n'a plus rien, en fait. Donc, je n'ai pas pris soin de cette poule aux œufs d'or qui était de l'énergie limitée que j'avais avant. Et jusqu'au moment où, justement, shutdown, burn-out, j'arrive en Colombie où je sens que les choses, ben, l'année dernière, tout se déconstruit dans ma vie, à titre surtout personnel. Et ça se réaligne tranquillou cette année. Et du coup, j'ai jamais été le gars qui dit putain, ça va pas. Non, je suis genre, ok mec, putain, bon, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas par rapport à avant. Voilà, prise de recul, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, tranquille. Je ne suis pas non plus en dépression, mais il y a des choses, je sens qu'il y a un mal-être. Donc, bah, je teste des trucs. L'année dernière, je teste un peu d'hypnothérapie, je teste, tu vois, je me suis remis à la méditation, des choses comme ça, tu vois, plein de leviers qui m'aident. Et puis aussi, cette année, hein, j'ai profité d'être en Colombie pour faire certaines médecines ancestrales. Donc, un avec les champignons, d'autres qui avec qui s'appelle le buffo, le cambo, qui vont être des médecines qui vont travailler sur le corps, sur l'esprit. Et du coup, de faire ces médecines-là et d'être aussi dans cette réflexion m'ont fait prendre conscience, tu vois, de typiquement, bah, en fait, merde, mec, t'es pas un constructeur, tu vois, t'es pas un bâtisseur, t'es plus un mec qui teste, comprend, et dès que j'ai fait le tour d'un sujet, tu vois, moi, l'entrepreneuriat, ça m'a éclaté, j'ai kiffé ça les 8 premiers mois, tu vois, parce que je découvrais. On lançait le business de mon ex, etc. Et pareil, à chaque fois que j'ai commencé quelque chose, que je suis dans cette phase de jeu, on nique tout, tu vois. Et dès que je suis dans cette phase répétitive, c'est là où mon cerveau dit, ah non, c'est pas nous ça. Et du coup, j'y vais plus au forceps et ça crée un truc intérieur qui est moins intéressant pour ma personnalité. Tu vois. Et je pense que c'est ça le plus dur à accepter. C'est, tu vois, parce que moi, j'ai des potes que j'admire encore une fois parce qu'ils sont pas, je suis pas comme eux. Ils se sentent bien, ils s'épanouissent dans la routine. Dans la discipline, dans la monotonie, tu sais, où ça martèle, bam, des métronomes, les mecs. Et ils sont dans le flow grâce à ça. C'est fantastique, tu vois. Mais c'est fantastique de le savoir. C'est fantastique de dire, non, les gars, moi, je ne sors pas ce soir. En fait, sinon, si je me couche tard, j'aime pas ne pas être dans tel truc et ne pas pouvoir faire mon sport. Ça me stresse, tu vois. Versus, bra, freestyle, on s'en bat les couilles, j'arrache tout, on y va, on fait comme on sent, tu vois. On est toujours dans l'aventure comme moi, je peux être. Mais tu vois, c'est très dur quand finalement tu regardes des vidéos YouTube, des trucs, des machins, un livre, parce qu'un livre ou une vidéo va te donner le mantra de la personne, comment elle est câblée, en fait. Et je pense qu'avant de vouloir appliquer un mantra, il faut savoir comment toi, tu es câblé. Et une fois que tu as compris comment toi, tu étais câblé, tu vas aller absorber toutes les connaissances d'un mec qui a crafté ce mantra-là et que tu as compris que ça te correspondait, en fait. Mais avant, c'est comme si, mec, t'es un rond et tu vas consulter toutes les vidéos d'un carré. Tiens, tu te dis, putain, le carré, en vrai, il fait des trucs stylés, tu vois. Il fait des trucs, c'est carré, quoi. Et sauf que toi, t'es un rond et t'es là, tu te dis, putain, ça marche pas ouf pour moi, tu vois. Putain, ça rentre pas super. Et un jour, t'as un gars, tu dis un rond, tu fais comme lui, il fait le rond, tu dis, putain, c'est fluide. Ouais, ça a moins de gueule que le carré, mais franchement, on s'amuse mieux, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est dur, en fait. C'est d'accepter que t'es soit un carré, soit un rond. Et en fait, il n'y a rien qui est mieux qu'un autre. J'adore la phrase d'Einstein qui dit, tu vois, genre, si tu fais croire à un poisson qu'il est fait pour monter aux arbres, il pensera toute sa vie qu'il est inutile et qu'il est nul. Et en fait, quand tu vas à l'école ou quand tu regardes des contenus, on va te faire croire que la méthodologie d'apprentissage ou d'action, elle est comme ça ou comme ça. Mais frérot, si t'es pas dans le moule, si toi, t'es un poiscaille, t'es là, tu te dis, mais non, moi, j'arrive, je ne monte pas à ton arbre. File-moi un océan. En fait, t'as pas conscience que si on te file une rivière ou un océan, tu vas tout déchirer. Et que là, le babouin, là, pour monter dans l'océan, il va être en galère. Et je pense que c'est super dur, ça. C'est super dur de le comprendre, de l'accepter. Et c'est pour ça que des fois, ça me fait rire un peu, tu sais, ces nouvelles tendances de « je suis non-binaire, je suis hypersensible, je suis zèbre, je suis HP, je suis… » Ça me fait rire parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens, ils se trouvent parfois des excuses, tu vois. Et d'un côté, c'est toujours pareil. Il faut d'abord aller un peu dans les extrêmes, quitte à être un peu stupide, pour revenir sur quelque chose qui fait du sens. Et pour moi, ce qui fait du sens, c'est qu'on est tous un peu différents et de l'accepter. Et c'est d'aller chercher, tac, 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 où est-ce que toi, tu es, comment tu te composes. Et quand tu as compris tes ingrédients, tu joues avec ça, en fait. Et c'est ça, pour moi, le plus dur. C'est ça, le vrai challenge.
On fait une transition toute parfaite sur le dernier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui.
Attends, j'ai rien jacté, frérot.
Mec, putain, mais normalement, c'est ton sujet de prédilection. On est parti pour 1h30, normalement. Personal branding. Quand tu apprends à savoir qui tu es et c'est là où tu t'épanouis, je sais que c'est un sujet qui te tient beaucoup, beaucoup à cœur. Un sujet que tu abordes souvent, notamment dans tes contenus. Pourquoi le personal branding est si important aujourd'hui quand on est entrepreneur en ligne ou quand on développe une activité sur les réseaux sociaux?
C'est une excellente question. Pourquoi c'est si important? En fait, déjà, je pense qu'il y a un truc qui est vraiment génial avec le personal branding, c'est que c'est enfin la bonne excuse pour assumer d'être pleinement soi-même, tu vois. Parce qu'en étant pleinement toi-même, déjà, tu n'as plus besoin d'être le meilleur, parce qu'il y a un truc très toxique en voulant être le meilleur. Hein. Parce que vouloir être le meilleur, ça veut dire que tu as deux places. Tu as Ronaldo, Messi. Tu vois. Oui. Et c'est ça le problème. Pourtant, on oublie que pour jouer la Ligue des Champions, t'as v'là les équipes, frère. Et t'as v'là les joueurs que t'auras jamais entendu parler. Ou que si t'es pas un aficionados, ça va pas te parler longtemps. Enfin, tu vois, tu les connais pas. Pourtant, s'ils sont pas là, Ronaldo, Messi, ils peuvent rien faire, tu vois. Et ça, en fait, surtout dans le personal branding, c'est de se dire, tout le monde peut pas non plus payer Ronaldo et Messi. Tu vois, genre, il y a aussi ça aussi, en fait. Tu ne peux pas te les payer, en fait, les meilleurs graphistes, les meilleurs devs, les meilleurs ce que tu veux. Peut-être que toi, en fait, à ton niveau, tu peux te payer telle ou telle personne. Et dans ce tel niveau de ce que tu peux te payer, qui c'est qui va te faire le plus kiffer? Avec qui tu vas le plus matcher? Tu vois? En fait, moi, je suis un gars, j'ai envie de faire de l'oseille, j'aime bien aller à la salle. Peut-être que je vais engager Lohan, tu vois? Parce qu'il est beau gosse, sympa, mais en plus, c'est un mec stable, il va bientôt peut-être être papa. On sait pas, peut-être, faut peut-être pas que je le dise, putain, je sais pas s'il faut le dire.
C'est bon,
tu peux dire. Putain, t'imagines, ta meuf, elle est au courant, t'imagines, elle entre en parle. Non, okay. Ta meuf, quand même, elle sait. Les parents. Bref. Et en gros, le truc, c'est que quand t'es ce genre de gars, le fait d'avoir un bon personal branding, c'est-à-dire que tu envoies les bons signaux, qu'on comprend qui tu es avec tes valeurs, je vais pouvoir les matcher avec toi et bosser avec toi parce que ça va certainement matcher. Et si je suis une meuf qui est peut-être hypersensible, qui mange vegan, j'ai peut-être envie d'en face d'une meuf qui est dans le business, mais qui a une approche peut-être plus qu'ils appellent consciente, plus féminine, qui comprend les cycles menstruels de la femme aussi dans l'organisation des certaines tâches dans le mois et de la gestion d'un business que toi, tu vas peut-être moins bien comprendre. Et du coup, je vais pouvoir me diriger là-dessus. Le personal branding, c'est ça. Alors que toi ou elle, vous n'êtes pas forcément meilleur l'un que l'autre de coach business, mais en fait, ça va matcher naturellement parce que tu envoies les bons signaux. Et quand je dis les bons signaux, c'est les signaux qui sont toi. Et du coup, c'est… si tu es un rond, tu vas attirer les ronds. Si tu es un carré, tu vas attirer les carrés. Et du coup, là, tout à coup, tout se passe bien. Et pourquoi ça m'a ça m'a autant touché le personal branding, c'est qu'à la base, avant de m'y mettre, je me disais, putain, mais c'est ouf à quel point je vois qu'il y a des gens qui ont des super produits, qui ont des super talents, et ils ne savent pas les promouvoir. Il y a une différence entre avoir un talent et un produit, savoir le promouvoir, savoir en parler sans être trop salesy, tu vois, genre sans trop pushy, sans être trop forceur, juste en parler naturellement. Et ça m'a fait halluciner parce que je voyais trop de gens qui n'arrivaient pas à vivre leur vie, d'avoir un métier passion, parce qu'ils ne savaient pas se vendre, parce qu'ils avaient peur de se mettre en avant. Et pour moi, vraiment le meilleur avantage d'arriver à assumer qui t'es et d'en parler publiquement, parce qu'en fait, c'est ça, tu vois. Ce n'est pas tant le business, tu vois. C'est qu'à partir du moment, et que tu sois introverti ou pas, ça n'a rien à voir, hein. Au contraire, pour moi, le personal branding, c'est un truc d'introverti. C'est que tu as tout le temps face à ta caméra ou tes photos, etc., de reformuler, de refaire les choses, versus si tu es en live, où là, tu peux être pris un peu de panique, versus la pression des gens, tu vois. Donc, c'est vraiment magnifique parce que le jour où tu t'assumes pleinement et tu es fier de qui tu es et que tu sais l'expliquer, tu sais t'exprimer, putain, mais en fait, tu ne marches pas pareil dehors dans la rue. Quand tu parles à tes proches qui ne te comprennent pas, surtout si tu as un métier sur Internet, qui disent ce que tu fais, et que tu arrives à l'exprimer en étant fier et tu ne te sens pas, toi, jugé ou blessé parce que finalement, tu comprends que c'est juste un écart de connaissances et tu vois, un monde d'écart. Et que tu arrives à construire un pont pour les faire venir dans ton monde et qu'ils comprennent et qu'ils te soutiennent, mais ta vie, elle est différente en fait. Ça veut dire qu'après, tu as le pouvoir que chaque chose que tu as envie de faire, tu sais l'expliquer, tu sais le rendre magnétique, tu sais le rendre intéressant, tu sais te rendre intéressant. Et forcément, la vie, elle est différente, elle est beaucoup plus belle.
Comment tu le définirais? Parce qu'on est rentré très vite dans le sujet, mais peut-être qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne comprennent pas le mot personal branding. Qu'est-ce que c'est concrètement si tu devais l'expliquer en une ou deux phrases là, pour les personnes qui ne connaîtraient pas?
Personal branding, on va dire, la traduction bête et méchante, c'est créer ta marque personnelle. C'est-à-dire que je vais te prendre toi, je suis Lohan. Et ben, en fait, je vais vendre mes prestations à travers ma tête, mon esprit, ma personnalité, mon environnement. Versus digital marketing, tu vois. Genre, la marque digital marketing va vendre ses services. Wow, ok, bon, finalement. Bah depuis quelques années, on est quand même rentré dans un monde où on veut parler, et surtout d'autant plus, je pense, avec l'AI, on va vouloir parler à des humains. Je pense qu'on va s'appuyer d'autant plus sur l'intelligence artificielle, mais on va avoir besoin d'autant plus de ce qui va nous manquer, c'est-à-dire l'échange humain. Et finalement, qu'est-ce que tu as du mal à avoir à travers une marque froide? Ah, c'est ça, c'est ce visage, cette compréhension, c'est se dire, non, mais les gars, vous me comprenez, oh, il y a quelqu'un en face ou pas là? Bah là, et c'est pour ça que je pense qu'il serait très bénéfique dans le monde, c'est d'avoir une atomisation des services, une atomisation des grandes structures. Et je pense qu'il vaut mieux 10 000 petits business qu'un gros, en fait. Parce que ça évite les dérives, ça permet aussi la stimulation, ça permet, tu vois. Donc, et puis surtout, chacun pourra s'y reconnaître parce que tu auras 10 000 façons de faire le business. Donc, c'est ça, en fait, la marque personnelle, c'est de te dire, j'ai une compétence et je l'aborde avec ma personnalité, je vais la personnifier avec qui je suis, et je vais l'aborder à ma façon. Et du coup, je vais attirer les gens uniquement qui sont attirés par cette façon-là et pas par une autre. Même si on parle de marketing, même si on parle de nutrition, c'est comme la musculation. Tu prends la musculation ou tu vois, tout ce qui est fitness, t'as là les façons d'aborder le fitness. Et du coup, tu vas aller vers ce qui t'attire le plus et c'est magnifique.
J'ai une phrase, hein. Franchement, il y a eu un avant-après ce jour où j'ai lu cette phrase dans un bouquin. Si je ne dis pas de conneries, c'est un gars qui s'appelle Jonathan Goodman, qui est dans le sport aussi. Et il disait que pour développer son activité, il s'était demandé, mais comment est-ce que je peux faire pour attirer les gens en étant différent des autres et pour attirer des gens à moi? Et dans le livre, il disait, je me suis posé la question de, en dehors de mon business, pour quel trait de caractère et quelles sont les choses qui font que les gens viennent naturellement vers moi? Alors, on pense assez généralement, moi j'ai pensé directement à mes meilleurs amis, etc. Et je me suis posé.
Ouais.
Et je me suis dit, mais généralement, pourquoi les gens viennent vers moi et pourquoi ils me kiffent? C'est quoi mes traits de personnalité? C'est quoi mes traits de caractère?
Bon,
C'est
t'es
quoi
beau
mes
gosse,
façons de
c'est parce
faire?
que t'es beau gosse, hein,
Ça doit jouer. Mais quelles sont mes blagues auxquelles ils rigolent le plus? C'est quoi mes trucs où on se marre tous ensemble, tu vois? Et je me suis dit, putain, mais si j'arrive à transposer ça sur Internet, ce qui n'est pas facile, c'est même horrible au début, mais juste le vrai Lohan de qui je suis, de comment j'aborde les choses, etc., eh ben, ça va marcher. Et depuis que j'ai réussi à mettre ça en place, pas du jour au lendemain, franchement, tout allait beaucoup plus vite, déjà en termes de business, mais surtout, moi, je me sens 10 fois mieux dans ce que je fais, dans mon activité au quotidien.
Mais c'est ça qui. Parce que je pense qu'il y a d'autant plus de satisfaction et de fierté de te dire que tu réussis en étant toi-même, en fait. Tu sais, on a toujours ce côté dans la société où on veut plaire. Tu vois, et du coup, malheureusement, on a tendance à parfois faire semblant ou arrondir les angles ou essayer de dire des choses qui, voilà, qui soit vont pas fâcher, soit vont plaire. Et on se retrouve enfermé peut-être dans un personnage qu'on n'est pas ou pas assumé complètement qui on est. Alors que si tu regardes les gens qui sont le plus connus, tu vois, ou si on sort même du business, tu vois, c'est des gens qui ont des personnalités fortes et qui et il y en a un plein qui s'en battent les couilles en vrai de, tu vois, et c'est ça que tu vas aimer. Tu fais, ah, il assume qui il est, il est drôle, il est machin, il est ceci, il est cela. Et c'est ça qui est fun. Et je trouve ça, c'est ça qui est beau en fait dans le personal branding, c'est que tu vas assumer qui t'es, quoi.
Quels sont les conseils que toi t'aimes bien donner à des personnes qui peut-être débutent dans le personal branding ou non, qui débutent même pas, qui connaissent, mais qui peut-être doivent réapprendre certaines choses, etc. Comment avoir un personal branding qui cartonne le plus? Je la fais simple, je la fais courte, je la fais.
Ouais, c'est. En fait, la chose la plus simple déjà, c'est écris ton histoire. C'est par des choses dures qui te sont arrivées. Ce qu'on veut cacher, c'est ton meilleur argument, en fait. C'est souvent grâce à un truc dur qui t'est arrivé que tu en es arrivé là où tu en es et que tu as compris certaines choses, que tu as eu des déclics. Ben, commence par là, en fait. Parce qu'on veut souvent se montrer sous le meilleur jour. Sauf que la chose avec laquelle tu connectes le plus, c'est souvent les problèmes des gens parce que tu as cette similarité avec eux. C'est des défauts que tu as en commun. Donc, je te dis, appuie-toi sur tes défauts. Et surtout, si de comprendre quelque chose, il y a souvent le syndrome de l'imposteur. Genre, ah, mais j'ai peur de mettre en avant les gens qui sont meilleurs, qui ont plus d'expérience, etc. C'est comprendre que dans la vie, on sera toujours le maître de quelqu'un et l'élève de quelqu'un d'autre. Si je prends l'exemple de l'intelligence artificielle, si ça fait 2 mois que je suis en train de penser l'intelligence artificielle, ça fait que 2 mois, tu vois, je sais pas non plus. Mais je suis un maître par rapport à une autre personne qui n'a pas encore eu le temps de mettre le nez dedans. Je suis son maître. Même si c'est pas moi qui est dev, l'IA, ou que je suis pas un dev, tu vois, blockchain, etc. Je vais pouvoir lui expliquer. Donc, j'ai l'humilité de vouloir simplement aider sur qui j'ai 2 mois d'avance. Et c'est de comprendre que de toute façon, il y aura des gens que ça fait 1 an qu'ils y sont et que ce n'est pas mes clients, en fait. Donc, c'est où j'en suis objectivement dans mes skills. Et du coup, qui y a en bas de moi? Et pour connecter avec ces gens-là, pour construire ton personal branding, c'est ben, assume tes traits de caractère et ta personnalité, partage-les, raconte ton histoire et partage de la valeur en voulant aider ceux qui sont moins bons que toi. Et ne cherche pas à avoir l'aval de ceux qui sont meilleurs. Tu vois. Sinon, encore une fois, tu rentres, alors je prends l'exemple du football, alors je ne suis pas fan de foot, mais tu ne te mettrais jamais au football si tu dis, bah en fait, il y a déjà Ronaldo, à quoi ça sert, tu vois. C'est con. C'est vraiment. Non, mais tu sais, c'est ça que les gens ils se disent malheureusement. Ah, mais il y a déjà Ronaldo. Enfin, tu vois, genre, il y a déjà lui, il est tellement fort, il dit exactement ce que. Ouais, il y a Ronaldo, il fait exactement ce que j'aimerais faire. Il a 4 ballons d'or et trucs et machin. Donc, je ne m'y mets pas. Bon, bah, après, il n'y a plus de joueur de foot en vrai. Donc, c'est juste toi, vas-y avec ta personnalité et ta façon de voir les choses et t'attireras les personnes qui te ressembleront. Parce qu'on attire à soi les personnes qui nous ressemblent. Et c'est ça qui est beau en vrai.
Ouais, c'est hyper puissant. Et écoute, j'aimerais terminer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport au personal branding? Parce que je pense que tu as d'autres trucs à partager qui seraient peut-être encore plus percutants que les questions que je viens de te poser là. Si, j'en ai une qui me vient concrètement. Si tu devrais dire à quelqu'un, aujourd'hui, on est au moment où on tourne, on est en 2023. Les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de concurrence, peu importe ce qu'on fait. Il y a de la vidéo. Il y a du podcast, il y a des formats courts, des formats longs, etc. Selon toi aujourd'hui, selon ta vision du business, des réseaux sociaux, le monde moderne aussi, quels sont toi aujourd'hui les meilleurs moyens de faire passer une idée, de faire passer une histoire ou de faire passer un message pour que les gens connectent avec nous?
C'est une putain de question qui justement m'a pas mal fait cogiter ces derniers temps. Et je me suis rendu compte d'une chose parce que je traquais pas mal mes clics qui était lié justement à mes différents leviers d'acquisition. Donc, moi, j'ai un podcast, j'en ai même deux, mais ça, c'est plus pour le fun. Donc, j'ai un podcast, une chaîne YouTube, Instagram, canal Telegram, newsletter, etc. Et un blog. Et en fait, donc on va dire qu'aujourd'hui, il y a deux grandes familles de contenu, les formats courts et les formats longs. Les formats courts, ça va être un réel sur Insta, un TikTok ou un short, OK, vidéo. Ça, super. Tu vas en fait pouvoir chercher la viralité et du coup la visibilité très forte assez rapidement. Si tu te tu dédies à un contenu et que tu postes tous les jours et que tu essaies d'améliorer un truc, tu vas y arriver. Tu vois. Surtout si au début, tu n'as pas un gros business, ça va te laisser beaucoup de temps pour aller créer de l'acquisition et de la visibilité. Y a pas de... En fait, si tu as un système de régularité où tu postes tout le temps, tu vas y arriver. Mais le problème, c'est que c'est très épuisant. Donc, si tu as 25 ans et que tu t'en fous, que tu n'as pas de life et vas-y, bah, tartine dedans, tu vas tout éclater, tu vas y arriver. À côté de ça, j'ai vu qu'en fait, ce qui m'a rapporté quasiment autant de clics sans rien faire, c'était les formats longs, notamment YouTube et mon blog. Blog, tu peux te dire que ça, c'est que dalle, c'est vieux, ça ne sert plus à rien depuis des années. Bah, en fait, ça, c'est le canepin en défect. Une vidéo que tu fais sur YouTube ou un blog post qui est bien ranké, en fait, il va tous les jours te rapporter des nouveaux leads. Et plus tu vas accumuler ça, plus ça va créer une fontaine, tu vois, à lead, à nouveaux prospects qui va être nourri. Alors que des formats courts, tu as un gros fusil à pompe. Des fois, tu tires dedans, des fois, tu tires à côté. Mais si tu ne tires pas, il ne se passe rien. Tu vois. C'est un peu ça. Et tu vois, moi qui aime bien m'exprimer, bah en fait, moi, je pense que la réponse à cette question, elle est, est-ce que tu es impatient déjà? Est-ce que tu as envie de tout arracher tout de suite? Est-ce que tu as beaucoup d'énergie? Quel est le format, quelle est ta façon de t'exprimer dans lequel tu te sens le plus à l'aise? Est-ce que tu écris? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu aimes t'exprimer en vidéo? Tu vois, moi, je peux jacter des heures, sans, comme tu peux l'entendre, sans que tu aies besoin de placer une question. Donc, tu vois, mon podcast, en vrai, frérot, je n'ai même pas l'impression de faire du contenu. Enfin, tu vois, genre, je suis là. Moi, je fais du. Non, mais c'est 40 minutes sur 4-5 sujets. C'est du one shot. Je prends ma respiration 4 fois juste sur les 5 sujets et c'est terminé, tu vois. Je ne leur fais pas la prise, c'est bra. Et la vidéo aussi, je suis assez à l'aise. Et à côté de ça, l'écrit, ça me demande beaucoup d'énergie. Beaucoup. Lire et écrire me demande beaucoup d'énergie. Donc, bah en fait, je me suis aperçu que là, tu vois, sur les prochains mois, je sais que je vais me. YouTube que j'ai délaissé pendant longtemps parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts. Bah en fait, je me suis dit, je vais plus me régaler et j'aurai plus d'effets long terme grâce à ces. Ce qu'on appelle les contenus piliers. Et même quand j'ai pris du recul, si tu prends des gens, des infopreneurs qui pèsent dans le game, que ce soit, je sais pas, Yomi Denzel, que ce soit Chloé Bloom, que ce soit Linda The Bee Boost, que ce soit, tu vois, il y en a plein d'autres, les Christopher Wangen. Bah en fait, ils ont bâti leur empire sur des contenus piliers. Soit des podcasts monstrueux, notamment les girls, tu vois, et ou des chaînes YouTube. Terminé. Et en fait, la plupart du temps, quand tu as des grosses chaînes piliers de formats longs, ça va redégouliner naturellement sur des formats un peu plus courts. Parce que de formats longs, tu peux redécouper et démerder pour en tirer des formats courts assez naturellement, ce que tu ne peux pas faire. L'inverse, tu ne peux pas faire. Quand tu fais un format court, tu ne peux pas en créer un format long. Donc, je te dirais, c'est en vrai, moi, en 2023, parce que je vois long terme aujourd'hui, parce que j'ai plus 25 ans, bah, en fait, je miserais sur du format long. Parce que je vois des choses qui sont pérennes et qui font que s'accumuler avec le temps. Parce que je vois, en fait, quand tu fais un contenu par jour sur une thématique, même peut-être que tu vas tout arracher, hein, tu vas tout éclater en un an ou 6 mois, 8 mois. Mais au bout d'un an et demi, tu en auras plein le cul, en fait, de ta thématique. Tu en auras plein le cul. Et tout ce que tu auras construit pendant un an et demi, bah, en fait, quand tu l'auras fini de construire, tu auras envie de passer à autre chose. Versus les formats longs qui t'autorisent peut-être à élargir un peu plus, à traiter plus des formats un peu plus larges. Et qui peuvent peut-être plus te nourrir l'esprit. C'est mon point de vue.
Et est-ce que tu serais d'accord aussi pour ajouter le fait que les formats longs te permettent plus de connecter encore avec ton audience et avec les gens?
Merci de rajouter ça, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Et tu as beaucoup plus de, je dirais, un rapport de, effectivement, d'attachement, de compréhension de la personnalité, d'affect sur un format long.
Au top. Juste pour conforter ce que tu viens de dire, je fais partie de groupes d'entrepreneurs aux États-Unis notamment. Tout le monde mise sur les formats longs. Si tu n'as pas de format long, ça va être très difficile. Ah ouais. Évidemment, si tu vois sur le long terme. Hein. Mais à partir du moment où tu es un entrepreneur, que tu sais où tu es, que tu veux faire ça toute une grande partie de ta vie sur le long terme, je veux dire, tu dois miser sur un format long, comme toi, tu as appelé ça les contenus piliers. C'est la première fois que j'en entends comme ça. Mais c'est des trucs qui compound. C'est de l'effet cumulé sur le long terme, notamment, et ce qui ressort, quoi qu'il arrive. C'est YouTube, peu importe si c'est des vidéos face cam, peu importe si c'est des interviews, peu importe ce que tu branles, mais du YouTube, c'est vraiment le truc vraiment à la mode où tout le monde est aussi assez OK pour le dire comme toi tu l'as dit juste avant.
Ouais, c'est fou parce que tout le monde entend parler de TikTok et Insta.
Mais tout le monde se rend compte qu'on s'épuise de ouf en fait à faire ça. Et que surtout, que c'est vraiment un fusil à pompe. C'est une fois, OK, tu fais de la vue. Merci, au revoir. Tu as créé zéro relation, zéro crédibilité. Tu t'es épuisé pendant une heure et demie.
Vanity metric, c'est-à-dire je le traduirais mal en français, mais c'est…
Se branler sur paramètres. Des likes.
Voilà. Se branler sur des likes. C'est très bien traduit, ça. C'est très, très bien traduit. Et c'est exactement ça. Et je pense que tu… Encore une fois… Quand tu es jeune, tu as grandi avec ça parce que les jeunes ont vraiment, ils sont d'autant plus sur ces formats-là de dopamine. Ça va leur parler, mais ben, comme tu dis, si tu as une vision de long terme, c'est comme en fait, tu fais du trading au jour le jour. Tu trades. Donc là, tu gagnes, mais tu peux tout perdre aussi hein, d'un coup si tu ne fais plus rien. Versus, en fait, je fais du hold sur les cryptos ou je fais sur une assurance vie ou je fais sur des dividendes, etc. Et je fais que cumuler en fait. Et un jour, bah, en fait, ton effet en finance, c'est sur la durée qu'il est violent, en fait.
Ouais. Hyper intéressant et merci d'avoir abordé le sujet des formats longs, etc. Moi, c'est mon cheval de bataille. Et j'espère que tout le monde qui aura entendu ça se mettra au format long et podcast ou vidéo, peu importe, on s'en fout. Mais format long, c'est pour moi une des clés sur ceux qui veulent miser sur le long terme. Allez, Alex, pour terminer et pour respecter ton temps, parce que je pense qu'on aura pris beaucoup de temps sur cet épisode-là, si tu avais, toi, je pense notamment à tes élèves avec qui tu bosses ou que tu as dans tes formations, etc., un conseil que tu aimerais que tu aimerais donner à tout le monde, mais surtout que tu aimerais que tout le monde comprenne ce truc-là et que parfois, tu es frustré quand tu le dis et que les gens ne le comprennent pas ou n'arrivent pas à le mettre en place, qu'est-ce que ce serait ? Un truc, je te la compte, parce que j'avoue que c'est une question de bâtard quand je la pose comme ça, mais grosso modo, si tu as un truc que tu sais que si un entrepreneur, on parle à des entrepreneurs, s'il comprend ce truc-là, tu sais que ça peut changer sa vie, mais toi, au fond de toi, tu es parfois un peu frustré quand tu leur partages, quand tu leur expliques, mais qu'ils n'arrivent pas soit à l'intégrer, soit à le mettre en place pour eux. Qu'est-ce que ce serait ?
Je pense que le plus dur, c'est d'accepter dans la vie qui tu n'es pas et qui tu es vraiment. Parce qu'encore une fois, il y a des exemples qui, moi, me font rêver, mais qui en voulant suivre ce chemin, bah, m'ont pas du tout rendu heureux. Versus quand je réfléchissais pas en fait à des exemples particuliers que inconsciemment je m'écoutais moi en fait et ça me rendait beaucoup plus heureux et c'est très dur quand t'aimerais suivre un chemin de vie et de comprendre que c'est pas le tien en fait et encore une fois je pense que c'est ça le plus dur parce que ça peut faire mal au cœur de vouloir se dire tiens je suis comme ça je voudrais faire tel truc et en fait tout est au forceps. Rien n'est naturel. Tu vois, genre, on va prendre un truc con. Peut-être qu'il y a des gens, ils veulent monter une équipe et au final, au fond d'eux, ils savent qu'ils sont plus là pour être consultants. Parce qu'ils sont là, ils sont solopreneurs et ça les rend heureux. Et versus de, je suis solopreneur, je suis dans ma bulle, je me sens solo et en fait, il faudrait peut-être monter une équipe et sortir les doigts du cul pour monter une équipe parce que ça va te rendre heureux, tu vois. C'est vraiment, je pense que le plus dur, c'est pas même tant d'accepter qui on est, c'est surtout d'accepter qui on n'est pas. Parce que, encore une fois, Vanity Metrics, le truc qui fait bien sur YouTube, et tu as envie de le faire, parce que c'est stylé, toi aussi tu veux la Lambo, toi aussi tu veux travailler 4 heures par jour et tous ces trucs-là. Mais qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer, tu vois, sans que tu te mentes ? Parce que, tu vois, autant tu peux accepter, tu vois, de te mentir en restant dans un job de merde toute ta vie, dans le métro boulot dodo, autant en fait tu peux rentrer dans la Golden Race et c'est pareil, ce n'est pas la bonne course pour toi, en fait, ou pas la bonne façon de le faire. Mais si j'ai un conseil, c'est teste des choses. Teste des choses et n'aie pas peur de te planter. Encore une fois, c'est soit on gagne, soit on apprend. Et si tu as le recul pour comprendre que en fait, je pense que là où moi, je suis très mauvais, c'est l'autoflagellation. Donc, je pense que le challenge personnel, c'est très positif. L'autoflagellation, c'est le niveau au-dessus, c'est de se dire putain, c'est pas assez bien, t'as encore foiré, etc. Ou là, finalement, c'est un challenge qui va te tirer vers le bas plutôt que vers le haut. Mais si tu arrives à voir chaque échec comme une façon de te dire bon, bah, ça, c'était pas pour WAM, tu vois. Ok, cool. Ok, genre, c'est comme si tu étais devant un chemin où il y a 10 branches, tu vois. C'est pas par où prendre. Ah, tu sais quoi, nique sa mère, je commence par le premier sur la gauche, j'y vais, et au bout de X temps, je dis non, c'était pas pour moi. Puis tu reviens en arrière, puis tu prends le deuxième. Et surtout, si tu es jeune, en vrai, toujours la même chose. Si tu mises ton bonheur sur ta réussite, le but, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le but, ce n'est pas d'arriver, en fait. Parce qu'une fois que tu arrives, admettons, tu fais quoi après? Sérieux, tu fais quoi? Tu te fais yesh. Ton but, moi, mon but, c'est que l'aventure, elle se termine jamais. C'est que le jeu s'arrête jamais. C'est ça mon but. Je suis dans un jeu infini de je suis pas là pour arriver parce qu'une fois que j'aurai gagné, ben, je serai là. Tu sais, c'est comme quand tu as fini une partie de jeu vidéo, je fais bon, bah, tu as fini le jeu. C'est qu'on refait une partie. Tu vois? Ce que tu veux, c'est pas t'en gagner. Finalement, c'est le plaisir de jouer. Et c'est l'adage que tu reverras partout sous tous les angles. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. C'est pas le résultat, c'est le process. Toutes ces phrases pétées au sol qui sont la vérité absolue et qui malheureusement elles sont tellement entendues, réentendues que tu les entends mais tu les comprends pas. Et c'est ça le plus dur.
Merci beaucoup pour déjà la qualité de tes partages. Franchement, c'était un épisode de ouf. Merci aussi pour la transparence sur ton parcours, sur l'histoire, etc. Je pense que ça parlera vraiment à beaucoup de personnes. Merci aussi pour le cours de personal branding, hyper intéressant.
Il était léger, mais.
Non, vraiment au top. Alex, s'il y a des personnes qui ne te suivraient pas pour l'instant et qui voudraient regarder un petit peu ce que tu fais, c'est quoi le meilleur endroit pour aller te suivre et justement regarder tes contenus?
Ben, c'est d'aller sur son réseau social préféré. Et vu que je suis sur tous les réseaux sociaux, ça devrait le faire. C'est taper Alex Vizeo, V-I-Z-E-O, et je devrais être dans le coin.
Bon, super.
Donc, ouais, non, je disais en plus, y a ça, le format long que j'ai remis un peu au goût du jour et que j'aime beaucoup en ce moment, c'est justement mon podcast où c'est un journal de bord hebdo où je l'enregistre comme un message WhatsApp à mes meilleurs potes et où j'apprends, c'est mon challenge de cette année, à être justement à montrer vulnérable, à partager les échecs, les peurs. Moi qui ai grandi dans une famille où il faut toujours regarder le côté positif. C'est justement apprendre à tout partager, voilà, et de le rendre et de se dire que finalement c'est toujours pareil, on joue un jeu global et j'aime bien et j'ai beaucoup de très bons retours.
T'as le nom du podcast pour les gens qui rechercheraient directement sur ta plateforme?
Bien sûr, c'est vrai que je l'ai pas dit. Les entrepoteurs, c'est entrepotes, entrepreneurs.
Super. Alex, encore un grand merci à toi. Merci pour
merci
l'épisode
pour l'invite.
Et puis à très vite, j'espère.
À très vite, bisous Beko.
Grand merci pour être fidèle au poste et fidèle au podcast dans ce nouvel épisode. Simplement pour te partager qu'il y a le podcast, mais il y a également la chaîne YouTube du nom de Loan Boucher. Il y a également le compte Instagram du nom de Loan Boucher aussi et le compte TikTok. N'hésite pas à aller t'abonner là-bas pour recevoir chaque semaine ta dose de conseils, d'astuces et de motivation pour développer ton business. Encore une fois, un grand merci d'être fidèle au poste et n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne et au podcast. Ciao, ciao.